Le garde-voix, fin. La nuit tombait lorsqu'elle entendit enfin les souliers ferrés de Jérôme frapper le sol durci pour se débarrasser de leur garniture de neige. Elle prit aussitôt sa lanterne et sortit à sa rencontre. Tout de suite, elle l'aperçut clairement de l'autre côté de la voie, dans la pénombre blanche des soirs de neige, et elle allait traverser les rails pour le rejoindre quand le sifflet de l'express du soir éclata tout près d'elle. Avec sa courte file de voitures éclairées, le train rapide passa comme un ouragan entre elle et Jérôme. Cela fit un froufrou brusque dans le silence de la campagne, une déchirure d'air nette et sèche. Puis les ondes invisibles se refermèrent et le bruit fugitif s'éteignit. Jérôme tirait derrière lui une bête poilue couleur de feu. À l'approche de l'étrangère, le chien découvrit des crocs aigus, cruels, annonçant des instincts féroces. Mais déjà Catherine le flattait de la main. « Oh, le beau chien, le beau chien !» Et heureuse de la présence d'un tiers, utile sans être gênant, elle poursuivit. « Où as-tu trouvé cette belle bête ?» Jérôme esquissa un geste lointain indiquant la plaine de neige qu'il venait de traverser, la plaine blanche, interminable, fermée ce soir-là par une buée glacée, et il répondit « Jules m'a indiqué un endroit. » Catherine n'ajouta rien. Ce nom sur les lèvres de Jérôme réveillait en sursaut toutes ses inquiétudes. Cela la poignait d'une angoisse intense où la peur, l'amour, la pitié et l'horreur s'alliaient indistinctement. Ils marchèrent quelques secondes en silence, côte à côte, sans se regarder. Ce fut Jérôme qui reprit le premier la parole. Il dit brièvement « Il y a du nouveau là-bas ». Catherine tressaillit. Quelle part de la vérité Jules avait-il avoué à son père? Et de quel mensonge avait-il enveloppé le reste? Elle articula sourdement « Du nouveau? Quoi donc? Est-ce ton fils ?» En parlant, elle avait relevé sa tête baissée. Ses yeux effrayés rencontrèrent le regard de Jérôme, un regard profond, si plein de passion qu'une autre émotion que celle de la peur fit aussitôt battre son cœur. Jusqu'à ce qu'ils fussent enfermés entre les quatre murs de leur maisonnette, ni Jérôme ni elle ne prononcèrent plus une parole. Mais à peine la porte fut-elle close sur la campagne solitaire et muette que Jérôme saisit sa femme dans ses bras. Il la serra dans un élan si brutal qu'effrayée elle se débattit. Elle se raidissait, essayant de se dégager. « Non, Jérôme, non, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Réponds-moi d'abord. » Jamais elle n'avait vu son mari aussi violent dans ses démonstrations, et ce nouveau l'inquiétait comme une menace. Ne s'emparait-il pas d'elle comme s'il avait cru pouvoir la perdre? De nouvelles et obscures appréhensions surgissaient dans son esprit tendu. Elle continuait de protester sourdement. « Non, non, je veux savoir ce que tu as. Tu n'es pas comme à l'ordinaire. Je veux savoir d'abord ce que tu as. On t'a dit là-bas des choses qui te tourmentent. Qu'est-ce que c'est ?» Il continuait à la tenir serrée, emprisonnée dans ses bras, et son souffle pressé lui balayait la figure. Il dit enfin tout bas « Catherine, ma Catherine !» Et comme si ce mot eût suffi à rétablir l'équilibre de son esprit surexcité, il ajouta du même ton bas, sans cesser de la tenir pressée contre lui « Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce que les gens disent. » « N'y a-t-il pas 4 ans que nous sommes ensemble? Est-ce que je ne sais pas bien aujourd'hui ce que j'ai fait en te prenant? Aussi longtemps que je vivrai, personne ne te touchera, n'aie pas peur. » Catherine balbutia faiblement « Peur de quoi ?» Et sentant glisser de nouveau sous sa peau de blonde une pâleur insolite et glacée, elle étendit la main vers la table, où la lanterne allumée lui jetait en plein visage l'éclat réverbéré de sa flamme. Le rayon lumineux alla brusquement frapper le chien. Abandonné à lui-même, l'animal étranger furetait dans les coins avec de longs reniflements à ras du sol. L'éclat du feu lui passa devant les yeux comme un éclair. Il lança un aboiement strident et prolongé. Jérôme et Catherine se séparèrent brusquement. Accoutumés au silence et à la solitude absolue de cette région déserte, une voix vibrante, éclatant à côté d'eux, leur avait donné un choc imprévu. Ils restèrent en face l'un de l'autre, silencieux, éprouvant, mêlés à une étrange sensation de gêne, une fièvre qu'ils n'avaient jamais connue. C'était comme si, subitement, leur longue et pure union se trouvait soumise à la loi des passions de passage, hâtives et mauvaises. Catherine fut la première à retrouver son sang-froid. La certitude que le fils était cause de l'étrange attitude du père la pénétrait d'une trop vive inquiétude pour s'en laisser distraire. Elle continuait à sentir le regard fixe et ardent de Jérôme, attaché à tous ses mouvements, et cette attention passionnée lui pesait, pour la première fois, comme une servitude mêlée de honte. Ce n'était pas ainsi que Jérôme l'aimait à l'ordinaire. Elle lui dit enfin, cherchant à dominer le tremblement intérieur qui secouait sa voix. « Quelqu'un t'a mal parlé de moi aujourd'hui, Jérôme. Et cette fois, cela t'a chagriné. Cela t'a chagriné pour moi, mais aussi pour toi. Est-il possible que ce soit... » Elle s'interrompit, se ressaisit et ajouta. « Est-ce Jules qui t'a conté des histoires cette fois ?» Les yeux de Jérôme changèrent brusquement d'expression. Ils prirent une couleur sombre, effrayante. Il articula froidement. « S'il recommence, je le chasserai d'ici comme un chien. » Catherine réfléchit. Un fait lui devenait absolument clair. Jules, en découvrant que son père ignorait sa participation aux aventures de la nuit, s'était hâté de prendre les devants. Il avait inventé une histoire pour la noircir aux yeux de Jérôme et rendre, en cas de conflit, sa parole sans valeur. Mais quelle était cette histoire? Et comment avait-il pu lui donner une couleur de vérité suffisante pour inquiéter Jérôme? Un instant, elle hésita, tenant entre ses mains inquiètes la balance mystérieuse des événements. Devait-elle permettre à cet être pervers de se servir d'elle pour cacher sa vilenie? Un instant, elle songea à sa destinée, qui avait été si sombre jusqu'à sa rencontre avec Jérôme. Elle y songea avec une acuité si intense que la période de soleil qu'elle avait traversée depuis cette époque lui parut tout à coup confuse comme un rêve. Puis elle dit tranquillement « Jules a le cœur léger et la langue souvent trop longue, mais ce qu'il dit c'est sans méchanceté. On sait tous les deux ce que ça vaut. » Pendant que Catherine parlait, Jérôme avait capturé le chien au passage. Il s'était assis et il le tenait entre ses genoux, examinant d'un air préoccupé la mâchoire au croc méchant. Son examen fini, il coucha l'animal sur le flanc et posa son pied pesant sur le pelage roux, touffu. La bête céda, resta immobile. Sans quitter des yeux l'animal dompté, Jérôme dit brusquement « Il voudrait se marier, ce garçon !» Catherine ébaucha un geste de surprise. Elle s'écria « Hein ?» Mais il lui fut absolument impossible de rien ajouter. « Une fille de par là, » poursuivit Jérôme. « Ça n'a pas le sou non plus, mais Jules aura 23 ans à la mi-janvier. Je n'ai rien à dire, il est libre. » Et comme Catherine continuait de se taire, il ajouta « Tu as raison, il n'a pas le cœur mauvais, ce garçon. C'est la langue qui l'entraîne. On le monte facilement et il ne sait rien garder pour lui. » Il y eut un moment de silence. Catherine approuvait de la tête. Tout à coup, repoussant le chien du pied, Jérôme se leva. Sa physionomie s'était éclairée. Il revint à Catherine. « Dis-moi ce qui en est toi-même, Catherine. Tu sais bien que je t'aime plus que tout au monde. Est-il vrai que ton père est libre et que tu l'as revu ?» Cette fois, Catherine eut un sursaut de véritable stupeur. Elle entrevoyait une trame de mensonges si serrée qu'elle ne pourrait peut-être plus y échapper. Elle interrogea à son tour, tremblante. « C'est Jules qui t'a dit ça ?»«
C'est un bruit qui court, il me l'a rapporté. »
Il ajouta la voix brève, les dents serrées, l'œil sombre. « Il n'y reviendra plus, sois tranquille. » Mais tout de suite, son visage reprit son air soulagé. Il continua.
« Dis-moi ce qui en est, toi, Catherine. Est-ce vrai qu'il est revenu ? Dis-le-moi sans avoir peur que cela me fâche. Tu sais bien que je t'aime plus que tout au monde. Peut-être qu'il a besoin d'argent, il faut lui en donner. Est-ce que tu ne peux pas lui donner ce que tu veux sans me demander ? Mais pourquoi me laisser apprendre ça par ces sales langues de serpent au lieu de... »
« On t'a menti !» balbutia enfin Catherine, blême. « On t'a menti indignement. Et toi, tout de suite, tu l'as cru ?» Et elle pressentit tout à coup la vérité. C'était elle que Jules avait accusée d'avoir pris l'argent. L'histoire qu'il avait inventée pour se sauver en essayant de la perdre, c'était ça. Et pour rendre cette fable acceptable à Jérôme, il avait imaginé froidement le retour du malheureux disparu, le seul fait que sa vie de femme pure et solitaire permettait de supposer. Le soupçon éveillé de Jérôme lui entrait plus avant dans le cœur que toutes les souffrances accumulées de sa longue jeunesse. Elle répéta douloureusement « Et toi, tu l'as cru ?» Jérôme l'attira brusquement à lui. « Non, dit-il, je ne l'ai pas cru. » Et il la baisa coup sur les yeux, sur le front, sur la bouche. Il promenait ses lèvres sur ce visage décoloré avec un emportement presque brutal. « Te soupçonner, toi, Catherine, de me cacher ce que tu fais ? Est-ce depuis hier que je te connais ? Croire à des raconteurs de vipères, quand je te connais comme je te connais !» Il continua, sans cesser de la tenir serrée contre sa poitrine. « Et c'est tout ce que j'ai fait, moi, là-bas. J'ai promis à Jules de lui donner, pour se mettre en ménage, la moitié de ce qui se trouve dans la boîte. C'est alors que j'ai promis ça comme ça, sur le coup. Qu'est-ce que tu en dis ?» Tout en parlant, il avait passé un bras autour de la taille de Catherine et il l'entraînait doucement du côté de l'armoire. Elle se taisait, opposant à l'effort qui la sollicitait une résistance inerte. Le garde continua. « Nous allons leur faire leur part tout de suite à ces enfants. Ce sera une affaire finie. » Cette fois, Catherine protesta faiblement. « Ce soir ? Non, laissons ça pour demain. Voilà seulement que tu rentres. Nous compterons ça demain. » En même temps, elle colla sa joue livide au visage de Jérôme et elle l'enlaça de ses deux bras pour le retenir. En face de l'horrible alternative de prendre sur elle le forfait de Jules ou de dénoncer au père la faute du fils, Catherine avait tout oublié, même la blessure d'un soupçon honteux. Elle ne pensait qu'à gagner une nuit de libre songerie pour se reconnaître dans la tortueuse aventure que la seconde trahison de Jules compliquait de difficultés nouvelles. Il lui fallait coûte que coûte quelques heures calmes pour se décider, choisir son chemin. Elle répétait « Pas ce soir, pas ce soir !» Et sa mortelle inquiétude se montrait à nu, sans aucune précaution. Jérôme s'arrêta, surpris. Il plongea dans les yeux de Catherine un regard aigu et il murmura d'un ton sourd « Catherine !» En même temps, employant sa force brutale, il l'entraîna du côté de l'armoire. De la main droite, comme Jules l'avait fait pendant la nuit, il bouleversait la pile de linge, il fouillait son propre bien avec la même hâte fiévreuse, éparpillant la toile propre remise en ordre le matin par Catherine. Quand il posa la main sur la boîte, qu'il sentit sous ses doigts le froid du métal, il resta un instant immobile. Son impatience semblait se calmer, comme si la présence de cette boîte à sa place accoutumée détendait son anxiété. Catherine avait cessé de résister. Elle se taisait. L'auréole de ses cheveux clairs accentuait sa pâleur de cire.
Et passive, elle attendait, les yeux mi-clos, la minute décisive qui allait la forcer d'agir. Elle attendait, sans autre projet défini dans l'esprit que celui de se disculper, en évitant, si possible, de trahir Jules. Toutes les cordes de sa volonté et de son amour se tendaient dans un suprême effort. Une seconde passa ainsi, une seconde d'attente intense. Elle passa brève comme l'éclair, et Catherine se sentit libre. Jérôme tenait à la main la boîte vide, et il la secouait, stupéfait, tandis que d'une voix étranglée, que Catherine n'avait jamais entendue, il répétait « L'argent n'y est plus ! L'argent n'y est plus !»« On t'a menti !» balbutia Catherine éperdue. « On a voulu me perdre auprès de toi. Celui qui a fait cela devait avoir un but. Il devait avoir un but !» En ce moment, le chien, oublié dans un coin, se mit à gémir plaintivement. Clameur effrayée d'une bête dépaysée que son nouveau milieu inquiète. Jérôme lui allongea un coup de pied brutal. « Tais-toi !» L'animal poussa un cri bref, alla s'aplatir devant la porte et se mit à renifler bruyamment l'air froid qui passait sous le seuil. Jérôme reprit d'une voix pressante « Où est l'argent ?» Il restait la bouche entr'ouverte, découvrant les dents aiguës de son râtelier complet d'homme sain et vigoureux, les yeux fixés sur Catherine. Catherine hésita. Nommer Jules dans ce moment? Non, c'était impossible. Se pourrait-il que Jérôme ne l'accrût plus sans le secours d'une trahison? Est-ce moi que tu accuserais d'avoir pris ton argent? Demanda-t-elle enfin sourdement. Moi, Catherine, je t'aurais volé? Je t'aurais dépouillé? Après ces 4 années passées ensemble, tu pourrais croire cela? Tu pourrais croire cela? Non, ce n'est pas possible. Jérôme la saisit par le poignet et l'attira sous le rayon de la lanterne. Une vive lumière inonda les traits pâles, les grands yeux bleus cernés, la toison blonde et frisée. Non, il était impossible que cette femme-là fût mêlée à d'hypocrites machinations. Un instant, la souffrance aiguë qui lui tenaillait le cœur disparut. Mais elle le reprit presque aussitôt, comme une griffe de fer qui se soulève et se replante. L'histoire, inventée par Jules, lui repassait tout entière dans l'esprit, insidieuse et perfide. Exaspéré, il avait mis fin d'un mot aux confidences empoisonnées de son fils, et il était revenu en courant, sûr que la vue de Catherine dissiperait, comme à l'ordinaire, les mauvaises vapeurs de calomnie dont on venait de l'envelopper. Mais cette fois, ce n'était plus le fantôme fuyant et oublié du passé qu'on avait fait danser devant ses yeux. C'était un fait précis, si solidement appuyé de vraisemblance et de juste prévision, qu'en voyant Catherine suivre à la lettre le programme tracé par Jules, un doute imprévu venait de naître dans l'esprit de Jérôme. Un doute horrible, autour duquel tous les petits faits de la journée se groupaient avec une écrasante précision de détails. La pâleur extraordinaire de Catherine, le soin qu'elle avait pris de balayer la neige autour de la maison de grand matin, son silence absolu au sujet de la disparition de l'argent, qu'elle ne pouvait pourtant pas ignorer, sa visible inquiétude lorsqu'il s'était agi de toucher à la boîte, tout cela se coordonnait, se consolidait, formait un ensemble si suivi que Jérôme, torturé, répéta sa question en la soulignant d'insistance. « Où est allé l'argent, Catherine? Je ne demande rien d'autre, mais cela, dis-le-moi. J'ai eu une autre femme avant toi. Elle me trompait de toutes les manières. J'ai souffert 10 années avec elle, sans me plaindre à personne. 10 longues années sans un jour de repos. Et maintenant, enfin, j'étais heureux avec toi, si heureux. Dis-moi seulement, où est allé cet argent? Et je te croirais comme si la madone, elle-même, descendait de l'autel pour me parler. Dis-moi seulement cela. Si tu l'as donné à ton père pour qu'il s'en aille et ne vienne plus jamais nous tourmenter par ici, dis-le. Pourquoi as-tu peur de le dire? Est-ce que je ne t'aime pas plus que tout au monde? Est-ce que ce qui est à moi n'est pas à toi? Mais je ne pourrai plus t'aimer comme autrefois avec ce secret entre nous. C'est ça qui me fait peur. C'est que je ne pourrai plus t'aimer tout entière comme autrefois.
Je n'ai pas pris ton argent, balbutia Catherine frémissante.
Moi, te voler? Je ne savais pas même ce qu'elle contenait, cette boîte. Pour personne au monde, pour personne, entends-tu, je n'y aurais touché. Est-il possible que du jour au lendemain tu ne puisses plus me croire?
Entre les époux liés par une si étroite intimité, il y eut quelques secondes d'absolu silence. Jérôme reprit enfin d'une voix basse et pressante.
« Oui, je te crois, Catherine, mais ne me fais pas attendre plus longtemps. Dis-moi ce que je te demande. Où est l'argent? Où est l'argent ?»
Catherine demeura un instant silencieuse, les grands yeux bleus effrayés fixés sur les vitres gelées qui cachaient l'étendue de neige, où tout le jour l'empreinte des pas de Jules était restée visible. Elle revoyait distinctement le jeune homme, souple et léger, bondir sous la claire lumière de la lune en emportant son butin. Et elle dit enfin, les dents serrées,
« C'est toi qui m'y force, c'est toi. »
Et d'une voix rapide et basse, elle continua,
« Puisque tu veux absolument savoir où est ton argent, que c'est moi que tu accuses dans ton cœur, que tu ne me crois plus, va le demander à... ton fils, lui seul. »
Sans la laisser achever, comme si la proximité de cette femme tant aimée le brûlait tout à coup à vif, Jérôme la repoussa d'un geste énergique. En même temps, des syllabes heurtées sifflèrent entre ses dents disjointes.
« Tu oses? Tu oses? La malheureuse! La malheureuse !»
Mais presque aussitôt, sa colère s'anéantit dans l'intensité de sa douleur. Il se mit à pleurer entre ses mains, avec des soubresauts violents. Depuis si longtemps étrangère aux sanglots, sa poitrine se déchirait. Entre les sursauts de ses nerfs, il racontait tout haut sa peine, comme un enfant.
« Il m'avait bien dit que, plutôt que de dire la vérité, tu l'accuserais. Lui, lui, mon fils. Mais moi, je l'ai fait taire d'un mot. Et voilà que tu l'accuses, quand il n'y a plus d'autre moyen de me tromper. Tu l'accuses comme il l'avait dit. Mais pourquoi me tromper? Pourquoi me tromper ?»
Longtemps, sans que Catherine sortît de son silence, il entrecoupa ses larmes de plainte, de regret, de reproche. Il pleurait la ruine de son bonheur, son passé détruit, son avenir empoisonné. Tandis que la certitude de ne pas pouvoir se passer de la présence de Catherine se faisait peu à peu une place dans sa pensée, à côté de son désespoir. Pure de reproche ou souillée d'une faute, elle lui était aussi nécessaire que l'air qu'on respire. Il ne l'aimerait plus comme autrefois, mais elle continuerait à être à lui. Elle lui appartiendrait même davantage, depuis que, honteusement, dans les ténèbres, elle l'avait dépouillé de son bien. Il découvrit tout à coup son visage désolé. Dans son œil noir, une flamme mauvaise et inquiétante brillait. Il dit sourdement,
« Tu savais bien que je ne pourrais pas vivre ici sans toi. C'est vrai, je ne peux pas. »
Catherine, pâle et immobile, ne répondit pas un mot. Jérôme poursuivit rapidement.
« Tu resteras ici. Et nous deux vivrons comme autrefois. Il n'y aura rien de changé. Seulement... »
Il réfléchit quelques secondes, sans trouver de terme correspondant à ce que serait cette nouvelle vie à côté d'une Catherine inconnue, d'une trompeuse, d'une voleuse. Et brusquement, le désespoir le reprit.
« Quand tu aurais pu d'un mot arranger les choses, comme tu aurais voulu me tromper ainsi. Pourquoi as-tu fait cela, Catherine ?»«
J'aurais dû te cacher jusqu'au bout toute la vérité, » balbutia Catherine. « Voilà ce que j'aurais dû faire. J'ai eu tort de te dire la vérité. Mais confesser une faute que je n'ai pas faite, je ne peux pas. Je resterai à côté de toi, et nous vivrons la vie que tu voudras. Jamais je ne pourrai te rendre le bonheur de ces 4 dernières années. À quoi bon dire autre chose? Tu ne me crois plus. D'un jour à l'autre, tu ne me crois plus. Je resterai à côté de toi,
et tu feras de moi ce que tu voudras. » Les paroles de Catherine sonnaient claires comme de l'or. Jérôme hésita. Puis brusquement, il se dirigea vers la porte. Catherine le suivit, pleine d'anxiété. « Mais c'est la nuit! C'est la grande nuit qui vient! Où veux-tu aller si tard ?» Jérôme indiqua, par-dessus son épaule, le côté de la campagne d'où il revenait à peine, et posant sur Catherine deux yeux fixes, ardents, il répondit « Je retourne là-bas. » La lune n'était pas encore levée. À peine voyait-on, à travers la brume opaque et rousse qui descendait jusqu'à la neige, la double rangée des rails luire faiblement ici et là, en faisant courir sur le sol leurs quatre serpents d'acier. Comme elle l'avait fait la veille, lorsque Jérôme s'en allait pour sa veillée solitaire, Catherine le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il eût disparu. Seulement, la joie qui l'animait le soir précédent s'était évanouie. Quelques heures rapides avaient suffi pour lui enlever la tranquille possession de son bonheur. La tendresse de Jérôme, devenue le jouet d'un misérable, venait de chanceler sous ses yeux. Par quel mensonge, par quelle tricherie, ce fils corrompu s'était-il, à ce point, emparé de la confiance de son père? Jérôme croyait à la parole de Jules et doutait de la sienne à elle. Il avait donc toujours, sans qu'elle s'en doutât, aimé ce fils pervers plus qu'elle-même. Elle souffrait affreusement de cette découverte, et en même temps, l'ancienne oppression de sa jeunesse lui revenait. Elle sentait peser sur elle le poids, si connu, d'une responsabilité étrangère, et cette fois, le fait de cette vieille épreuve la brisait. Elle s'abandonnait à la fatalité sans résistance, comme si le soupçon tenace de Jérôme avait détruit à fond le ressort de son énergie. Puisque Jérôme, sans la croire, avait voulu revoir Jules, elle était perdue. Quand elle ne vit plus devant elle que l'épais voile humide du brouillard d'hiver, elle rentra, et longtemps elle demeura songeuse. Elle s'efforçait en vain de retrouver son ancienne soumission passive vis-à-vis des caprices injustes de sa destinée. D'autres passions que celles de la résignation et du renoncement avaient habité son âme et la laissaient frémissante et révoltée. Jules lui inspirait une horreur où ne se mêlait plus aucune pitié. Ce sentiment nouveau s'alliait comme du fiel à sa douleur. Elle murmura enfin « Et c'est ce drôle qui va décider de mon sort !» Son impuissance à dégager sa vie de l'engrenage compliqué où Jules l'avait enfermée lui apparaissait clairement. En faisant surgir l'ombre oubliée de son père, à elle, il avait eu soin, sans doute, de peser sur la part de mal et de bien, mêlée au sang que les parents lèguent à leurs enfants. Est-ce qu'elle ne connaissait pas depuis longtemps son adresse à tromper, sa souplesse hypocrite, ses ruses habiles? Et tout de suite, Jérôme l'avait cru. Il avait donc toujours nourri, dans un coin secret de son cœur, l'obscure crainte de voir renaître en elle quelques vestiges du passé. Pas un moment il n'avait songé que Jules aussi avait hérité du sang de sa mère. C'était elle, Catherine, qui devait être la coupable. Tout son bonheur passé n'avait donc été qu'une construction légère, sans autre assise qu'une fausse entente, une double erreur. Elle se prit à gémir tout haut, dans le silence et la solitude de sa retraite. Si plongée dans sa peine, qu'elle ne songeait pas même au secours lointain de la religion. L'heure présente l'absorbait tout entière, la meurtrissant dans le passé, la menaçant dans l'avenir, et elle s'abandonnait au désespoir, la tête cachée dans ses mains. Tout à coup, elle tressaillit. Un souffle chaud venait de lui caresser la joue. Elle découvrit brusquement son visage. En face d'elle, les yeux luisants d'impatience, le chien couleur de feu la regardait fixement. Dès qu'il vit la figure de Catherine sortir de sa cachette, il aboya bruyamment en posant sur ses genoux une lourde patte jaune. Catherine prit dans ses deux mains la tête intelligente et la pressa contre sa poitrine. « Mon beau, mon beau !» La présence de cet animal, l'alliance tacite qui venait de se conclure entre eux, enlevait quelque chose à l'horreur de son attente solitaire. Ses larmes jaillirent enfin, pressées et bienfaisantes. Chapitre 3. L'hiver s'acheva lentement et le printemps aussi passa. Autour de la demeure du garde, des fleurs d'été, bigarrées et odorantes, commençaient à s'ouvrir. La clématite blanche grimpait le long des murs en s'accrochant aux aspérités de la pierre, et des capucines, au ton cru, éclataient partout sur le fond éteint de leurs larges feuilles pâles. Au gré de leurs caprices, elles projetaient jusque sur la terre dure des sentiers leur floraison envahissante. Aucune main n'avait, cette année-là, réprimé leur vitalité exubérante. Personne n'avait pris soin de leur assigner des bornes définies. Elles fleurissaient librement sous la poussée de la sève d'été. Dans la campagne, la solitude et le silence continuaient de régner. Pourtant, de loin en loin, un aboiement bref éclatait tout près de la maisonnette. L'oreille fine du chien avait saisi le passage de paysans venant travailler à la terre. Il allait flairer l'air du dehors en grognant sourdement jusqu'à ce que Catherine le rappelât auprès d'elle. La femme du garde et le chien étaient presque toujours seuls vis-à-vis l'un de l'autre, et cet isolement absolu que Catherine préférait autrefois à toute autre condition d'existence lui était devenu d'une tristesse insupportable. Dès que l'express de l'après-midi avait passé avec son bruit sifflant, elle appelait le chien, et ils s'en allaient ensemble, rôder dehors dans le voisinage. Le mouvement et le grand air la calmaient un peu. Elle considérait d'un œil rêveur la patience obstinée de la nature, qui recommence éternellement le même travail sans se décourager. Les bruits confus et incessants de la campagne, les bouffées d'air tiède, imprégnées du parfum fort de la marjolaine et du thym sauvage, toutes les harmonies subtiles de la terre leurraient sa peine. Elle se reprenait à espérer un miracle, toujours le même, et elle envoyait vers la coupole fermée du ciel une supplication muette, ardente. Oui, un jour viendrait où Jules se repentirait de sa mauvaise action. Un jour, elle reverrait face à face le fils de Jérôme, et il saurait alors ce que sa faute avait entraîné de conséquences. Il verrait de ses yeux que ce n'était pas son bonheur, à elle seule, mais aussi celui de Jérôme, que le poison de paroles menteuses avait détruit. Dès que le soleil descendait du côté des grandes forêts, que Catherine voyait son ombre s'allonger indéfiniment sur la blancheur du chemin, elle retournait rapidement sur ses pas, fouettée par la crainte d'arriver en retard et de trouver Jérôme installé avant elle devant une table non servie. Mais elle était toujours la première, et dès qu'elle avait franchi le seuil de sa demeure, l'oppression de sa vie nouvelle vis-à-vis de Jérôme lui écrasait le cœur. Elle attendait le retour du garde, l'esprit torturé d'appréhension. Jérôme gardait avec elle un silence obstiné. Il mangeait les repas qu'elle lui préparait sans prononcer une parole. Puis, sans lever les yeux, il s'en allait. Catherine avait en vain essayé de lui arracher le récit de son entrevue avec son fils. Il avait coupé court à son questionnaire d'un ton bref. « Plus tard. » Une autre fois, elle lui avait offert en tremblant de le quitter. Mais, sans la regarder ni prendre le temps de réfléchir, il avait refusé d'un mot. « Non. » Tu resteras ici. » Depuis ce moment, elle était la servante de son bon plaisir, l'esclave de toutes ses volontés. Il rentrait tard le soir, il sortait tôt le matin, et dès qu'il avait disparu, Catherine pleurait avec des frissons de dégoût qu'elle ne pouvait pas réprimer. Pourtant, malgré ses révoltes douloureuses, elle continuait de l'aimer. Son cœur battait encore à son approche, mais autrement qu'autrefois. L'attente joyeuse et impatiente des jours heureux, avait fait place à une anticipation soucieuse et craintive. L'humiliant souci de sa jeunesse lui était revenu. L'opprobre d'une faute qu'elle n'avait pas commise l'enveloppait de nouveau de toutes parts, d'un réseau étroit, inextricable. Comme autrefois, elle cédait à la fatalité qui la condamnait à subir la peine méritée par un autre. Mais son courage était mort, et le chagrin la minait sourdement. Parfois, au milieu de ses courses vagabondes, elle voyait fuir le sol sous ses pieds et les nuages du ciel danser au-dessus de sa tête une ronde singulière. Elle s'asseyait alors un instant au bord du chemin, et le chien, étonné, venait lui lécher les mains et la figure. Catherine caressait doucement le pelage touffu. « Mon beau, mon beau !» L'attachement de cette bête était le seul réconfort qu'elle eût éprouvé depuis le commencement de son épreuve. Le chien ne la quittait jamais, et souvent elle lui parlait tout haut de son chagrin. Tour à tour, comme Jérôme, cet animal savait être aimant ou cruel. Dans sa pensée, Catherine les rapprochait inconsciemment. Elle prodiguait à l'un les paroles qu'elle n'osait plus dire à l'autre. Jérôme ne s'occupait jamais du chien. Il ne le caressait ni ne le châtiait. Il ne le regardait même pas. Il s'en allait, les yeux baissés, comme s'il craignait, en rencontrant le regard de Catherine, de faiblir dans sa résolution de silence. Une fois dehors, quand le travail de son poste ne le réclamait pas, au lieu d'employer à la culture de son jardin ses heures de loisir, comme autrefois, il allait s'enfoncer à quelque distance de sa maison dans un fourré d'arbrisseaux bas qui le cachait aux yeux de Catherine. Il restait là, de longues heures, couché sur le dos, le regard fixé sur l'étendue plate que le voleur de son argent avait traversée par la neige pour venir trouver Catherine au bord de la nuit. Avec la patience tenace du chasseur à l'affût, jour après jour, il attendait le retour du père de Catherine, sûr de le voir poindre tout à coup au fond de la distance et prêt à lui faire payer coûte que coûte la perte de son bonheur. S'il ne se défendait pas, il le rendrait simplement à la justice. S'il essayait d'échapper, alors, au prix de n'importe quel malheur, il le retiendrait, et Catherine assisterait à leur lutte de tout près. S'il pouvait l'entendre gémir une seule fois tout haut de sa vilenie, peut-être qu'il pourrait lui pardonner. Toutes les fois qu'il était obligé de s'en aller veiller à la cahute, Jérôme attachait le chien dehors à une chaîne d'acier fermée par un cadenas dont il emportait la clé. L'animal, habitué à une pleine liberté à côté de sa maîtresse, hurlait pendant des heures de suite, tandis que Catherine, tenue éveillée, l'écoutait, attendant le passage des trains pour mesurer l'interminable longueur de la nuit. Et lorsqu'elle entendait le sifflet aigu traverser l'espace et le roulement brusque des voitures frôler sa maisonnette, il lui venait des envies, inconnues autrefois, de s'en aller, elle aussi, emportée bien loin par cette course rapide, de fuir ailleurs, dans des endroits nouveaux, où elle n'aurait pas goûté au bonheur. Après ces nuits-là, elle se levait, pâle, étourdie, épuisée, et elle préparait le déjeuner de Jérôme sans y toucher. La vue des aliments la dégoûtait. Pour éviter que Jérôme s'aperçût qu'elle ne mangeait pas, elle donnait au chien tout ce qu'elle pouvait lui glisser sous la table, sans être vue, et l'animal, tous les jours plus démonstratif, l'adorait. Il la suivait partout, s'arrêtait où elle s'arrêtait, se tenait collé à ses jupons, jusqu'à ce que d'un mot elle le libérât. « Va t'amuser, va !» Les jours de pluie où Catherine gardait la maison, le chien restait couché à ses pieds des heures durant, sans impatience ni ennui, prêt à bondir au moindre signe. Avec cette garde-là, personne ne pouvait s'aventurer de nuit autour de la maison pendant les absences de Jérôme. Quand il était présent, la surveillance était son affaire. Il laissait, sans paraître s'en apercevoir, grandir la préférence du chien pour Catherine. Mais un jour, où, comme à l'ordinaire, il sortait de table sans avoir levé les yeux, il appela la bête et voulut l'emmener avec lui. Mécontent, l'animal se mit à grogner, se laissant tirer par son collier jusqu'à la porte. Jérôme, impatienté, le frappait, le maltraitait, le domptait, tandis que Catherine, épouvantée, murmurait « Va t'amuser, va t'amuser !» Pendant plus d'un mois, jusqu'à ce que le chien eût appris à lui obéir sans marchander, tous les jours, Jérôme le prit avec lui. Restée seule, Catherine réfléchissait. Cette subite fantaisie qui la privait de son fidèle compagnon la surprenait profondément. À force d'y penser, elle se l'expliqua. Ce que Jérôme attendait dehors en compagnie de cette bête dangereuse, c'était le retour du visiteur nocturne qu'il croyait être son père, à elle. Chose étrange, au lieu de l'affliger, cette découverte lui fit du bien. La certitude que Jérôme était rongé comme elle par le regret du passé, qu'il ne pouvait pas mieux qu'elle s'accoutumer à une vie incomplète et humiliante, apaisait son angoisse solitaire. Lorsque le chien rentrait, et fou de joie l'étourdissait de caresses, elle baisait à plusieurs reprises la tête intelligente. « Mon beau, mon beau !» Et il lui semblait que cet animal, que Jérôme venait de châtier ou de flatter en pensant à leur bonheur perdu, lui devenait plus cher que dans le passé. Des semaines passèrent ainsi, lentement, et enfin, aux chaleurs ensoleillées et sèches de l'été, succédèrent de courtes journées grises, mortes, où la lumière s'endormit au fond des brumes d'automne. Une humidité crue sortait de la terre. Elle s'élevait, ici et là, comme une fumée au ras du sol, roulait sur l'herbe brûlée des prairies, des lambeaux d'écharpes diaphanes, qui allaient se perdre dans l'atmosphère brumeuse. Le grand silence d'hiver approchait. Jérôme et Catherine allaient y rentrer, comme ils en étaient sortis quelques mois auparavant, sans que ni l'un ni l'autre eût fait un pas pour franchir la distance qui les séparait. Mais pendant ces longs mois de souffrance silencieuse, Catherine avait perdu sa fraîcheur de blonde. Ses joues s'étaient creusées. Ses yeux, aux paupières froissées, avaient pris un éclat trop vif. La chevelure crépue et abondante qu'elle tordait derrière la tête n'encadrait plus qu'une toute petite figure détruite. Il lui arrivait quelquefois, tant sa fatigue était grande, de s'étendre tout habillée sur son lit, tandis que le chien la guettait d'un œil inquiet et l'agaçait de sa grosse patte impatiente. Un soir, que, comme à l'ordinaire, le repas silencieux fini, Jérôme s'en était allé sans la regarder, elle se traîna jusqu'au lit et s'y jeta. Elle n'en pouvait plus. Avant de prendre un peu de repos, il lui était impossible d'achever le travail de la journée. Il faisait encore jour, et à travers les vitres, elle voyait le ciel gris, uni, étendre à perte de vue, sans trouée ni déchirure, sa couleur éteinte et triste. D'ordinaire, quand elle demeurait ainsi étendue, immobile, sur son lit, son excessive fatigue se dissipait peu à peu. Elle pouvait songer à son chagrin avec moins d'effort. Mais ce jour-là, elle ne pouvait pas même penser. Toute la nuit précédente, le chien, attaché à sa chaîne, avait hurlé dehors bruyamment. Et pas une minute, Catherine n'avait dormi. Une lassitude écrasante l'assoupissait. Les membres engourdis et les idées confuses, elle flottait dans un monde vague, où les choses cruelles de sa vie perdaient leur aiguillon acéré, sans que ce changement lui donnât de la joie. Tout à coup, arrachée à ce sommeil léger et incomplet, elle sursauta sur son lit. Près de la porte, le chien aboyait d'une voix furieuse en découvrant toutes ses dents féroces. Surprise, Catherine s'assit sur son séant et elle appela l'animal d'une voix sourde. « Ici !» Et comme il continuait d'aboyer malgré ses caresses, elle le frappa sur la tête pour la première fois de sa vie. Le chien, étonné, se tut. Il se coucha à plat ventre, les pattes devant allongées dans une attitude d'attente agressive. Le cœur de Catherine s'était mis à battre. Elle ne pouvait presque plus respirer, et elle murmurait, les dents serrées,
« mon Dieu, si c'était lui, si c'était lui, enfin !»
Longtemps, l'espérance de voir le fils de Jérôme revenir à elle, pénitent, l'avait possédée. Mais depuis des mois, Catherine avait cessé de croire à ce repentir. Elle ne conservait plus que l'ardent désir de revoir un jour le jeune homme, face à face, de pouvoir une seule fois lui faire toucher du doigt son crime et lui crier tout haut son infamie. Au sortir de son sommeil maladif, sa pensée flottante avait tout de suite pris une forme et un son. Elle balbutiait, affolée, l'oreille tendue, « Jules ! Jules !» Et pour retenir le chien, elle avait passé son doigt à l'anneau d'acier. Il continuait de grogner sourdement, retroussant ses lèvres noires pour mettre à nu ses crocs méchants. Tout à coup, il fit un bond, échappa à Catherine et courut à la porte. Catherine sauta vivement sur ses pieds et, chancelante, elle s'appuya au bois du lit. Au même instant, la porte s'ouvrit. Jérôme entra. Il avait la figure rouge et échauffée. Il s'approcha de Catherine et, sur un ton d'ardente prière, il l'implora, le souffle court, haletant. « Catherine, dis-moi que c'est toi !» Elle tressaillit jusqu'au cœur à ces paroles, où la mère et incurable douleur se trahissaient tout haut. Mais elle répondit sourdement, « Ce n'est pas moi !» Sans la regarder, Jérôme siffla le chien et sortit. Aussitôt dehors, l'animal jeta un aboiement strident qui s'acheva dans un cri bref. Puis Catherine n'entendit plus rien. Elle resta appuyée à son lit, regardant dehors le ciel morne qui s'éteignait de plus en plus. Elle avait les joues en feu, les membres glacés, et dans les oreilles un bruit de tambour mêlé à une rumeur de cascade lointaine. Ses tempes battaient la mesure, une mesure sèche et précipitée. Une heure passa lentement, toute une heure d'attente immobile et silencieuse, et le crépuscule acheva d'envelopper la campagne. Tout à coup, le long du châssis de la porte, une fente de lumière se dessina. Catherine poussa un cri sourd. « Jérôme, est-ce toi ?» Aussitôt, l'ouverture s'agrandit. Un homme se faufila à l'intérieur et referma vivement la porte derrière lui. « Ah !» murmura une voix basse et étouffée. « C'est bien ce que je croyais. Mon père n'est pas ici. C'est ce chien du diable qui m'a fait peur. » Catherine, les lèvres blêmes, balbutia. « Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. » Elle ajouta sans reprendre haleine. « Tu m'as tué. Voilà ce que tu as fait. » Dans le jour mourant, elle distinguait très bien la haute taille droite, la membrure souple, la figure imberbe restée presque enfantine de son beau-fils. Et frémissante, elle regardait cet ouvrier de son malheur, dont le premier mot n'exprimait ni regret ni repentir. Toutes les espérances fondées sur cette rencontre lui échappaient brusquement. La présence de Jules, au lieu d'alléger son supplice, lui paraissait au contraire une source de nouvelles menaces. Elle reprit froidement. « Viens-tu rapporter ce que tu as pris? Ou viens-tu achever ce que tu as commencé? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Dis vite, je n'ai pas peur de toi. » « Vous êtes bien toujours la même, » dit Jules d'un ton agité. « Vous ne pensez qu'à vous. Il n'y a que vos peines et vos joies qui comptent. Les autres peuvent se morfondre dans les difficultés. Cela vous fait ça. » Et il fit claquer le pouce et l'index d'un geste méprisant. Il reprit aussitôt du même ton inquiet. « Cette femme que j'ai épousée est une guenille, une rien du tout. Voilà ce que j'ai à dire, moi. Il lui faudrait des mille et puis des mille pour se niper à sa guise, et elle ne serait pas encore contente. Et maintenant, voilà ce qu'il y a. Je ne fais pas de grandes phrases, moi. Je dis les choses comme elles me viennent. Voilà ce qu'il y a. Si personne ne m'aide à sortir du bourbier où je suis, je n'ai plus qu'à m'en aller, comprenez-vous ? Il faut que je m'en aille très loin, dans les mauvais pays où la fièvre tue le monde. » Et brusquement, son arrogance tomba. Il poursuivit d'une voix changée et suppliante. « C'est vrai que je n'ai pas été très gentil pour vous, mais ça s'est arrangé tout seul, presque sans que je m'en mêle. Mon père m'a fait peur. Il m'aurait écrasé. Tandis qu'à vous, il pardonne tout. Maintenant, vous voyez bien que les choses ont tourné contre moi. Je suis 100 fois plus malheureux que vous. Ça doit vous contenter. Tenez, soyez gentil comme autrefois. Aidez-moi encore cette fois, cette seule fois, et je vous jure que ce sera la dernière. Ça, je le jure. » Catherine écoutait, muette, coulait ce flot de paroles, où pas une fois l'idée de repentir n'apparaissait. Pliée presque toute sa vie sous le fait d'une faute étrangère, cette insouciance vis-à-vis d'un mal réel, commis sciemment, la bouleversait. Cela la troublait si profondément que toutes ses angoisses passées et présentes, son mépris et ses rancunes se noyaient dans un étonnement poignant. Elle commença d'une voix entrecoupée d'émotions. « C'est là tout ton regret de ce que tu as fait, du mal que tu as fait volontairement à ton père et à... » Mais sans même achever sa phrase, elle s'interrompit net. Dans le carré clair que la fenêtre coupait dans l'ombre, elle venait de voir passer la silhouette de Jérôme. Distinctement, elle l'avait vu apparaître un instant sur le fond gris de l'air. Et aussitôt, la pensée que le père avait assisté, invisible, à son entretien avec le fils, qu'il avait reconnu la voix et saisi les paroles, la glaça d'épouvante. Son horreur pour l'audace endurcie de ce drôle et son âpre désir de réhabilitation étaient balayés par la crainte d'une explication immédiate entre le père et le fils. Elle saisit le bras de Jules des deux mains et elle poussa le jeune homme du côté de la porte. « Va-t'en ! Va-t'en !» Et comme il restait immobile, avec un vague sourire de pitié sur ses traits anxieux, elle poursuivit en indiquant du doigt la fenêtre derrière laquelle Jérôme, tapi comme un chasseur à l'affût, les surveillait sans doute. Elle poursuivit hâtivement. « ton père, je l'ai vu, il est là. Il ne faut pas qu'il te voie. Va-t'en. Laisse la porte ouverte, toute ouverte. » Jules pâlit affreusement. Et comme si les craintes de Catherine n'avaient rien d'exagéré à ses yeux, il courut à la porte. Mais sur le seuil, il s'arrêta indécis. Il balbutiait haletant « Le chien ! Le chien ! Passe devant la maison et laisse la porte ouverte, toute ouverte !» Jules se glissa dehors, laissa la porte ouverte et s'enfuit en courant. Catherine le vit bondir comme un écureuil par-dessus la double rangée des rails, et le souvenir de la fuite nocturne du fils de Jérôme se réveilla. Tout ce qu'elle avait souffert depuis ce moment lui revint avec une intensité pénétrante. Quoi qu'il advînt, désormais, le bonheur des anciens jours était perdu pour elle. Jamais l'opprobre où elle avait vécu à côté de Jérôme ne pourrait s'effacer de sa mémoire. La trace en avait été gravée au fer rouge sur son âme. Jules continuait de courir sans se retourner, et Catherine, le cœur plein d'amertume, le regardait fuir à travers champs. Mais tout à coup, elle se redressa, fit quelques pas du côté de la porte, et elle cria d'une voix aiguë, stridente, « Ici ! Ici !» Le chien, lancé en pleine course, s'arrêta brusquement. De la même voix perçante, Catherine répéta son appel, « Ici ! Ici ! Ici !» La queue basse, l'animal revint sur ses pas, rampa à contre-cœur dans la maison et vint se coucher, docile, au pied de sa maîtresse. Jérôme avait suivi le chien à la course. Au moment où Jules, pour se défendre de cette bête furieuse qui allait l'attaquer, se retournait brusquement, le père et le fils se trouvèrent face à face. Il y eut un silence de quelques secondes, un silence écrasant. « Chien !» siffla enfin Jérôme entre ses dents disjointes. « C'est toi qui es le chien !» Et du fouet qu'il employait à châtier l'animal, il frappa le visage de son fils. Jules s'éloigna, affolé, trébuchant sur les obstacles, se rattrapant et se reprenant à courir. Jérôme retournait rapidement du côté de sa demeure. Il y entra vivement, tout essoufflé. « Catherine ! Catherine !» Mais Catherine gisait, inanimée, à côté de la porte, avec une figure de cire au milieu de son épaisse et ondoyante chevelure blonde. Il l'enleva entre ses bras comme une plume et la posa sur le lit. « Catherine ! Ma Catherine !» Agenouillé à côté d'elle, il roulait sa tête sur les couvertures de droite à gauche avec un mouvement inconscient de balancier. « Ma Catherine ! Réveille-toi ! Mon Dieu ! Est-ce qu'elle est morte ? Catherine ! Catherine !» Toute la nuit, il l'appela ainsi sans qu'elle l'entendît. Pas même le bruit grondant de l'express nocturne ne l'attira de son insensibilité. Quand enfin elle ouvrit les yeux, l'aube naissait. Un nouveau jour était venu. Chapitre 4. En proie à une fièvre ardente, Catherine demeurait indifférente à ce qui l'entourait. Pendant le jour, plongée dans une torpeur pesante, elle recevait les soins de Jérôme sans s'en apercevoir. Dès que le soleil baissait à l'horizon, elle sortait de sa léthargie et divaguait, les joues en feu. Confondant ses chagrins passés avec sa peine récente, elle interpellait tour à tour son père et Jules, les accusant tous les deux du vol nocturne. Elle ne prononçait jamais d'autre nom. Et Jérôme, attentif à scruter les paroles incohérentes qui sortaient des lèvres fiévreuses, y cherchait en vain le sien. Le chien, attaché jour et nuit à sa chaîne, hurlait presque sans cesse. Quelquefois, quand la plainte désolée devenait trop constante, Catherine s'agitait visiblement. Alors seulement, Jérôme allait détacher l'animal. Le chien se glissait dans la chambre, et comme autrefois, lorsque Catherine, épuisée, s'étendait un moment sur son lit, il la harcelait de sollicitations. De sa langue chaude, il lui léchait la figure, il la tourmentait de caresses impatientes, jusqu'à ce que, exaspéré de l'indifférence de sa maîtresse, il lui aboya son chagrin en plein visage. Jérôme allait le rattacher à sa chaîne, et à son tour, il essayait de réveiller l'attention de sa femme. « Catherine ! Catherine !» Il l'appelait d'une voix tendre, rauque, timide. Pendant des heures, sans se lasser, il l'appelait, les yeux fixés sur le visage détruit. Tout ce qui n'était pas en rapport direct avec son inquiétude ardente, il l'effaçait de sa pensée comme un détail insignifiant. D'abord, sauver Catherine. Il songerait à son fils ensuite. Sauf les nuits de veille réglementaire, où forcément il devait s'absenter, personne que lui n'approchait de Catherine. Ces nuits-là, une femme venait de la ville veiller la malade. Elle s'installait au chevet du lit, et jusqu'à ce que Jérôme s'en allât, elle lui racontait les petites nouvelles de son milieu. Il la laissait bavarder à son aise, sans l'écouter, et leur venue, il s'esquivait sans lui répondre. Une seule fois, elle réussit à l'arracher à son mutisme. Après avoir remis en ordre la chambre négligée et s'être installée à sa place ordinaire auprès de Catherine, elle dit d'un ton apitoyé « C'est vrai ce qu'on dit que votre fils est parti soldat en Afrique ? Un seul fils, ce serait tout de même trop dur, ça !» Jérôme, sur le seuil, prêt à sortir, se retourna. Son visage assombri s'était contracté. Il articula nettement, d'un ton sec, froid, cassant, « Je n'ai pas de fils !» Et il s'en alla rapidement. Le visage banal et fatigué de la veilleuse s'alluma d'une intense curiosité. Elle alla ouvrir la porte derrière Jérôme et le regarda s'éloigner du côté des grandes forêts. Puis elle vint se rasseoir à côté de Catherine en murmurant « Est-ce que le chagrin lui troublerait l'esprit à présent ? Il ne leur manquerait plus que ça !» 3 semaines s'écoulèrent lentement, sans que Catherine sortît de son apathie. Un soir, enfin, que Jérôme avait détaché le chien et que la bête impatiente se livrait auprès de sa maîtresse à ses démonstrations ordinaires, Catherine souleva sa main pesante et murmura Mon beau !» Jérôme, anxieux, se pencha aussitôt sur elle. « Catherine ! Catherine, c'est moi !» Elle le regarda longtemps, attentivement, puis elle ferma les yeux et ne dit rien. À partir de ce moment, la fièvre la quitta, mais elle restait languissante, refusait de se nourrir et ne parlait jamais de se lever. Des heures et des heures, Jérôme restait assis à côté d'elle à la regarder, sans rien dire. La distance qui les avait séparés subsistait, quoi qu'il fît pour la franchir. Elle subsistait, malgré le bouleversement de ses convictions. Et cette fois, elle venait de Catherine. D'une façon indéfinissable, mais certaine, Catherine avait changé. Lorsque Jérôme rencontrait son regard, elle ne le détournait pas, mais il n'y voyait plus les mêmes choses qu'autrefois, et cette différence le poignait, le déchirait, lui rendait fidèlement les souffrances qu'il avait lui-même infligées naguère à sa femme. Sans s'apercevoir de sa figure flétrie, il s'était remis à l'aimer aussi ardemment que dans les jours disparus, où, bravant tous les obstacles, il l'avait voulu et épousé. Il éprouvait à côté d'elle une frayeur de tout jeune garçon qui n'a jamais parlé d'amour. Il ne se disait presque rien, comme si le long silence où ils avaient vécu fût devenu une habitude impossible à briser, que le pli de tant d'heures écoulées fût désormais ineffaçable, ou que le désaccord latent de leurs pensées leur fût constamment sensible. Un jour, enfin, Jérôme se décida à secouer le poids de cet éternel silence qui l'étouffait. En rentrant d'une de ses tournées d'inspection, encore tout imprégné d'air frais et stimulé par la rapidité de sa course, il s'approcha de Catherine. Il faisait encore grand jour, et la figure blanche s'enfonçait dans l'oreiller, perdue dans un creux, toute petite. Jérôme prit entre ses deux mains cette tête amincie, chétive, osseuse, et il demanda tout bas « Est-ce que tu ne pourras jamais me pardonner ?» Une rougeur fugitive colora le visage de Catherine. Elle s'agita un moment comme si elle cherchait, sans le trouver, un lien entre les choses passées et les choses nouvelles. Puis elle dit doucement « C'est fini !» Et avant que Jérôme eût le temps de renouveler sa prière, elle lui posa la question que depuis des jours elle retournait dans son esprit sans oser la formuler. « Où est ton fils ?» Jérôme lâcha la tête blonde embroussaillée. Pour la première fois, il venait d'apercevoir, à travers les traits changés, le masque effrayant de la mort. Comme le jour où il avait trouvé Catherine inanimée sur le sol, il s'abîma à côté du lit. « Catherine, tu ne vas pas mourir !» En tâtonnant, Catherine chercha la tête qui oscillait sur ses couvertures, dans un balancement douloureux, inconscient, et sa main s'y posa, légère, comme une caresse maternelle. « Jérôme, Jérôme !» Un instant, avec la fixité de croyance qui ne l'avait jamais quittée, même au jour de sa pleine félicité, elle songea à l'opprobre à effacer de sa vie, à sa lointaine et triste jeunesse, à son père. Puis elle ajouta « Cette fois, j'ai tout payé. » Et elle réfléchit quelques secondes, rassemblant toutes ses forces pour accomplir un dernier acte difficile. Ce que Jérôme aurait voulu entendre, elle ne pouvait pas le lui dire. Elle n'avait plus le sentiment qu'elle avait eu. Si même elle revenait à la santé et à la vie, ce qui avait été ne serait plus. Toute une existence de soins ne ressuscite pas la fleur qu'un pied brutal a écrasée. Dans son âme fruste, mais délicate, elle sentait cela confusément. Et elle cherchait à laisser derrière elle un héritage de vérité où aucun venin ne se mêla. Jérôme continuait à la questionner en gémissant. « Est-ce possible, Catherine ? Tu ne pourras donc jamais me pardonner ? Jamais ?» Elle lui répondit enfin lentement. « Je n'ai rien à pardonner. Rien. Ton erreur m'a brisée, voilà tout. Cela m'a brisée jusqu'au fond. Et maintenant, il me reste autre chose à te dire. Tu as quelque chose à faire quand je serai partie. C'est cela qu'il me reste à te dire. » Et avançant sa tête amaigrie, elle regarda Jérôme de tout près en répétant sa récente question. « Ton fils, où est-il ? » Jérôme ébaucha un geste violent, un geste de menace, mais il ne répondit rien. Catherine souligna sa demande d'un ton pressant. « Dis-moi où il est !»«
Le menteur !» balbutia Jérôme les dents serrées. « Fils de sa mère, le drôle !»«
Et pourtant, » dit Catherine sourdement, « c'est pour lui que tu dois vivre !»
Jérôme tressaillit. « Que voulait-elle dire, Catherine ?»« Ah oui, c'était cela. » Elle voulait. Il la comprenait bien à présent. Il reprit, suffoqué.
« Oui, je te vengerai, Catherine, mais tu vivras. Tu ne me laisseras pas seule. Tu vivras. »
Elle s'agita. Elle ne trouvait pas, dans sa tête fatiguée, les paroles nécessaires pour éclairer cette pensée qui si longtemps s'était mêlée à la sienne sans effort. Elle dit enfin,
« C'est ton fils, la chair de ta chair, ton sang, une partie de ton âme. Il faut le sauver, entends-tu ? Promets-moi, promets-moi. »
Elle s'interrompit, réfléchit quelques secondes et ajouta, « Promets-moi que tu vivras jusqu'à ce que tu l'aies revu. » Ce que voulait Catherine, cette fois Jérôme le saisit confusément. Ce n'était pas seulement au fils qu'allait sa pitié, c'était aussi au père. Il s'écria douloureusement,
« je promets, mais ne me quitte pas, Catherine, ne m'abandonne pas, ne me quitte pas encore. »
Un silence tomba. Tout à coup, dans la chambre où le jour mourait, un hurlement de bête éclata, un long cri déchirant. Jérôme se leva, courut au chien et le châtia. Mais Catherine l'appela d'une voix faible.
« Ici, mon beau !»
Chapitre 5. Quelques jours plus tard, Jérôme rentrait de nuit de la ville. Il pleuvait à torrents et à travers son gros manteau de drap, la pluie l'avait trempé à fond. Sur ses talons, le chien suivait, la tête basse, mouillée jusqu'aux os, lui aussi, penaud et transi. Cependant, dès qu'il fut à l'abri sous le toit familier, l'animal secoua, joyeux, son pelage roux et courut au lit. Longuement, il flaira, avec bruit, les couvertures en désordre, puis il se mit à chercher dans la chambre. Il courait partout, inquiet, fouillant les angles et les recoins. Jérôme s'était assis. Il restait à côté de son foyer éteint, suivant d'un œil absent les allées et venues du chien. La solitude de cette maison vide le pénétrait d'un froid glacial. Il n'avait pas prévu que ce pût être aussi horrible. Non, cela dépassait la somme de peine qu'il pouvait porter. Il grelottait dans ses habits mouillés, tandis que le chien poussait de longues plaintes de détresse. Fatigué de ses recherches vaines, l'animal avait fini par monter sur le lit et il grattait dans les couvertures en reniflant bruyamment. De temps en temps, il dressait la tête et hurlait la gueule ouverte. Dans le coin de la chambre, derrière le lit, l'horloge continuait à scander la fuite des secondes de sa voix sèche et menue. Et son cadran d'émail fixait le vide d'un œil rond, indifférent et mort. Jérôme ne voyait ni n'entendait rien. Il restait abîmé dans la considération du fait brutal qui venait de s'accomplir dans la journée. Catherine était à jamais perdue pour lui. Ce ne fut que lorsque le premier train de nuit passa qu'il sursauta sur sa chaise, comme si ce bruit familier le ramenait enfin aux réalités nécessaires de son existence. Il sortit de son abattement, alluma le feu, puis il alla soulever le rideau de mousseline et regarda par la fenêtre. Il faisait une nuit noire, trempée, lugubre. Des nuages très bas, pesants, roulaient leurs masses sombres les unes sur les autres, comme si jamais cette provision d'eau ne pourrait tarir. Mais les quatre sillons brillants tracés sur le sol par la double rangée des rails restait visible. Dans 2 heures, le grand express nocturne passerait là, comme un ouragan. Jérôme retourna s'asseoir auprès du foyer, où la flamme, en pleine activité, faisait craquer le bois sec avec des éclats d'étincelles et de brusques sifflements. Toute la chambre s'était éclairée d'une lueur ardente et gaie. Des vêtements trempés de Jérôme, une buée s'élevait et l'enveloppait. Au milieu de ce brouillard, des souvenirs se mouvaient avec une extraordinaire netteté. Pas à pas, Jérôme refaisait toute son histoire, depuis le jour où Catherine l'avait aimé, jusqu'à celui où Jules l'avait faussement accusé. Arrivé à ce point, il s'arrêtait et recommençait, comme si le reste n'existait plus, ou que, sciemment, il évita d'y arrêter sa pensée. Et tic-tac, tic-tac, les secondes continuaient à s'enfuir en emportant les minutes. L'heure aussi passait. De temps en temps, Jérôme levait la tête, et attentif, il écoutait dans la nuit pluvieuse. Mais l'eau qui continuait à tomber lourdement, et les gémissements continuels du chien, lui remplissaient les oreilles d'une rumeur trop proche pour distinguer un son à distance. Une sorte de calme pesant lui était venu. Il murmura « Quand j'entendrai siffler !» Et il se remit à penser à sa vie heureuse, du temps où Catherine l'aimait. Tout à coup, un son aigu perça les ténèbres comme un cri d'appel. Jérôme se leva d'un bond et se précipita dehors. L'œil rouge de la locomotive avançait dans la nuit avec une vertigineuse rapidité. Le dernier coude tourné, le train accourait comme un monstre avide et cruel, traînant derrière lui sa courte queue enflammée. Encore quelques secondes, et cette misère humaine que rien ne pourrait consoler serait guérie, détruite, anéantie. Jérôme, les bras ouverts, les yeux fermés, attendait, debout, sans bouger. Ses lèvres, entrouvertes, murmuraient « Catherine, Catherine !» Tout à coup, au milieu du bruit de la pluie, du grondement des roues, des aboiements furieux du chien, du sang qui lui martelait les tempes, Jérôme crut entendre, tout près de lui, 2 mots qui se détachaient, brefs et clairs, du vacarme étourdissant. Cela sonnait dans sa tête comme un bruit tout proche de fanfare. « Promets-moi ! Promets-moi !» Au même instant, fendant la nuit, le train passa comme un éclair et s'enfuit à travers la pluie. Jérôme, debout à côté de la voie, le front inondé d'une sueur froide, acheva les dents serrées. « Que tu vivras jusqu'à ce que tu l'aies revue !» Il continua sans reprendre haleine. « C'est ta chair, c'est ton sang, c'est une partie de ton âme !» Et à pas lents, il rentra dans le domicile, où à tour de rôle, il avait connu, à côté de Catherine, le bonheur et le désespoir. À travers la ruine de ses joies, il entrevoyait confusément autre chose que sa douleur, une raison de vivre que Catherine lui imposait comme un devoir. Il murmura à plusieurs reprises d'une voix étouffée « Sauve ton fils ! Sauve ton fils !» Comme Catherine avait bien deviné la lâcheté qui le terrasserait en face d'une vie sans elle. Sa sollicitude lui avait préparé une tâche. Elle lui ordonnait de vivre pour son fils. C'était une existence nouvelle qu'il fallait commencer, terne et pesante, une longue suite de jours sans joie, remplie d'un effort, peut-être inutile, pour arracher une proie au vice et au crime. C'était le sacrifice de sa colère et de sa rancune. Sa tendresse paternelle, jadis si ardente, restait sourde et engourdie au fond de son cœur. Il alla retomber à la place qu'il venait de quitter, dans la ferme intention de fuir la solitude glacée où Catherine l'avait abandonné, et il s'écria douloureusement « Catherine, Catherine, si au moins tu m'avais aimée jusqu'à la fin comme au commencement !» Et il cacha sa figure entre ses 2 mains, mais ses yeux restaient secs. Il ne pouvait pas pleurer.
À la voix de Jérôme, le chien avait bondi jusqu'à son maître. Il lui balayait les mains et la figure de sa langue satinée. Depuis la brusque sortie de Jérôme au moment du passage du train, l'animal avait cessé ses recherches. Il s'était assis en face de Jérôme, surveillant tous ses mouvements. Ainsi que Catherine l'avait fait le soir où elle était restée seule, livrée à l'angoisse d'une attente pleine de menaces, Jérôme découvrit son visage et regarda le chien. Oh, comme Catherine avait aimé ce fidèle compagnon de son épreuve! Jérôme revoyait les caresses de sa femme, ses attitudes, ses soins pour cette bête, associés à tous les détails de leur malheur. Il entendait la voix bienveillante appeler « Mon beau !» Tout à coup, il saisit la tête intelligente, l'approcha de sa figure et murmura « Sauvez mon fils !» Et il ajouta d'un ton sourd « Mon beau ! Mon beau !» Et enfin, son cœur éclata. Il pleura.